Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho pour parler aujourd'hui du baby clash. Après 9 mois d'attente interminable, bébé est enfin là, le plus beau jour dans la vie d'un parent, un moment magique pour débuter la plus belle des aventures. Bien sûr, avant ces 9 mois, on s'est aimé très fort et on a même imaginé la famille parfaite qu'on allait devenir, mais parfois tout ne se passe pas comme on l'avait espéré. L'arrivée d'un enfant au sein du couple annonce l'arrivée d'une nouvelle étape, mais plus qu'un changement, c'est bien souvent un réel tsunami. Pour les couples les plus solides, l'occasion de se réinventer, et pour d'autres, la crise peut s'avérer fatale. 1 plus 1 égale 3, une équation difficile mais pas insoluble. Et pour parler de ce sujet, je pose mes questions aujourd'hui à Ariel Simoni, psychologue et expert autour des questions du couple. Ariel Simoni, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous encore une fois aujourd'hui pour répondre à mes questions. Tout d'abord, première question, qu'appelle-t-on le baby clash ?
Alors, le baby clash, c'est un phénomène par lequel l'arrivée d'un enfant remet en cause la stabilité du couple. Donc, en fait, c'est un phénomène qui a été identifié par un psychiatre en 2005, sans vouloir écorcher son nom, Bernard Gheberowitsch. Et en fait, donc, il apparaît que on est dans un phénomène ici qui va concerner plus de 20% des couples qui vont donc, à l'arrivée d'un enfant, être particulièrement perturbés dans leur relation jusqu'à envisager une séparation.
D'accord. Et les causes sont-elles clairement identifiées ?
Alors, les causes, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Hein, vous allez taper baby clash sur Internet, vous allez trouver un peu de tout comme élément. De manière assez succincte et globale en termes de causes, le premier élément, c'est, comme vous l'avez abordé, la question de la solidité du couple. C'est-à-dire considérer déjà, est-ce qu'on est un couple qui est fragile ou pas ? Est-ce qu'on est capable de faire face à l'arrivée d'un enfant ? Donc ça, souvent, quand on démarre, l'arrivée d'un enfant avec déjà un état conflictuel ou un état de couple bien ballant, donc c'est déjà un premier phénomène. Mais je dirais qu'à la limite, ça c'est le dernier, parce que à la base, le premier, le plus important, c'est déjà la configuration familiale dans laquelle on a grandi. Et ça, on la sous-estime beaucoup. C'est se rendre compte en fait que suivant le modèle de relation de couple qu'on a eu de nos parents, il va y avoir un très sérieuse influence sur notre propre modèle. Donc, soit on a eu un modèle qui peut être, on va dire, relativement exemplaire, et à ce moment-là, on a de bonnes bases, soit il n'est pas exemplaire, à ce moment-là, du coup, il va falloir qu'on se débrouille par soi-même. Et donc là, du coup, ça nous amène à la deuxième cause, qui est en fait l'expérience relationnel, et de se dire que suivant les expériences de couple qu'on va avoir, on va pouvoir être préparé à l'expérience de couple avec un enfant, parce que ça va déterminer aussi la solidité. Voilà. Donc c'est un peu les trois raisons principales, si on peut dire, et annonciatrices.
Très bien. Et quels sont les signes annonciateurs ? À quoi le couple doit-il être vigilant ?
Alors, les signes qui peuvent alerter d'un dysfonctionnement, généralement, c'est pas évident, parce qu'en fait, c'est un phénomène dans lequel on va être focalisé sur l'enfant et on peut parfois même être anesthésié par rapport à l'état de sa relation. Et en fait, ce sur quoi il faut être vigilant, c'est par rapport à l'éloignement qui peut se produire ou au conflit qui peut se passer dans le couple. Vous voyez, c'est-à-dire que on a des états d'éloignement et de conflit qui peuvent s'avérer problématiques au point d'être inquiétants sur le plan de la relation. Donc concrètement, parce qu'on ne sait pas toujours se dire bon, ça va, on se dispute, c'est pas si grave, ça fait une dispute, ça fait partie du couple, mais il s'avère bien qu'il y a certaines disputes qui peuvent s'avérer sérieusement nocives, qui peuvent parfois pousser au mensonge, voire à la tromperie, Donc, les premiers éléments, c'est les conflits, c'est la quantité des conflits et
dans le temps,
que ce soit. Voilà. Quand ça devient trop conflictuel et que ça devient un éloignement, là, clairement, voilà, on se retrouve avec un temps qui est réduit pour le couple. Donc, si on passe moins de temps dans son couple, notamment sexuel, parce que là aussi, il faut aborder cette question et se rendre compte que très souvent, les couples vont être perturbés sexuellement par l'arrivée d'un enfant.
Et quand on parle au profit de la famille, de la parentalité, c'est ça ?
J'ai pas
finalement on abandonne un petit peu le couple pour se consacrer à la parentalité.
Absolument. C'est-à-dire que le couple parental se fait au détriment du couple conjugal. Mais bien, c'est-à-dire que ça va même parfois jusqu'à interrompre en fait même les relations sexuelles. Déjà il y a un arrêt entre guillemets naturel sur vers la fin de la grossesse et le début de la maternité, mais au final il y en a qui depuis ne se remettent, j'ai eu des cas très récemment où en fait depuis l'arrivée d'enfants il n'y a pas eu de rapport sexuel.
C'est qu'il y a un souci de...
Ah oui, absolument. Quand les rapports sexuels s'espacent trop, hein, parce que bon voilà, on va considérer qu'il y a une certaine quantité, on va dire une certaine norme des rapports, en tout cas, enfin un certain nombre de rapports qui permettraient en fait de relater l'état de santé du couple. Donc ça c'est un signe qui peut être clairement annonciateur, qu'on peut pas banaliser, parce qu'au début on peut dire oui c'est par rapport à l'accouchement, c'est pas facile, etc. Mais en fait, avec le temps, en fait, plus ça va, plus ça se creuse et plus vraiment ça a été problématique. Donc, il y a vraiment cette vigilance à avoir sur cet aspect-là. Voilà. Et puis, l'absence de plaisir, de façon générale, on parle pas seulement du rapport sexuel. On parle de passer du temps ensemble, de passer du temps de couple ensemble. Qui se réduit par l'arrivée d'un enfant où en fait on va tout miser sur l'enfant et puis on va se retrouver à mettre de côté le couple, quoi. Et ça voilà, ça c'est un vrai signal d'alerte, c'est quand on se rend compte. Et il y en a qui font la confusion, pour eux c'est pareil, le couple parental et le couple conjugal, c'est-à-dire mais comment ça, enfin, c'est pareil, on est une famille, il est où le couple?
Ouais.
Voilà.
Et alors, quand on a échappé au baby class, au premier enfant, oui. Est-il possible que l'arrivée d'un second enfant puisse venir déséquilibrer la famille? Le deuxième, ça va très bien se passer.
Déjà, il faut dire que, enfin, on peut, entre guillemets, survivre au baby class. D'accord? Qu'il y ait baby class, c'est pas forcément séparation. Ça va dire perturbation, ça veut dire désordre, mais ça ne veut pas dire séparation. Donc, il y a déjà l'idée que le couple survive à un premier baby clash. En général, s'il a réussi à passer le premier, ça sera plus facile pour le deuxième. D'accord? Mais il se peut que le deuxième amène une perturbation plus grande dans la mesure où ça demande beaucoup plus d'organisation. Donc, on peut arriver à plus ou moins se gérer avec un enfant, mais à l'arrivée d'un deuxième, c'est se dire, voilà, est-ce qu'on va pouvoir passer ce cap-là? Surtout si les enfants sont approchés.
Oui.
Et parce que là aussi, il y a aussi ce calcul. Il y a des mamans qui veulent faire des enfants rapidement pour ensuite être tranquilles, mais elles ne se rendent pas compte aussi que des enfants rapprochés, ça peut aussi faner un couple, ça peut faire perdre le couple parental et conjugal. Donc il y a aussi cet élément à prendre en compte et finalement se dire que oui, ça peut altérer, mais on peut y échapper.
On peut y échapper justement, vous l'évoquiez juste avant, on peut sortir du baby clash, c'est pas une fatalité. Et du coup, ma question, quel conseil pouvez-vous donner pour surmonter un baby clash?
Quel conseil? Eh bien, écoutez, déjà, c'est pouvoir finalement s'assurer d'une solidité du couple, parce qu'au final, on est beaucoup biaisé par par l'état du couple du moment, et se dire voilà, on est bien, donc il n'y a pas de raison. Mais faut vraiment prendre conscience de la solidité du couple et ne pas sous-estimer l'engagement nécessaire pour l'arrivée d'un enfant, d'accord. Donc cette solidité, c'est finalement prendre conscience de la notion du couple et pas seulement être dans un amour subjectif, mais se dire voilà, qu'est-ce que pour toi le couple, est-ce que ensemble on va pouvoir construire une famille et rester un couple,
et puis une très bonne communication.
Comment?
Ça sous-entend une très bonne communication, quoi qu'il arrive dans le couple. On sait, c'est la base.
Absolument, une communication beaucoup plus élaborée, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre compte. La communication à l'arrivée d'un enfant, elle devient beaucoup plus élaborée parce que la problématique est plus complexe, plus profonde. Il y a beaucoup plus de solutions à trouver, beaucoup plus d'options, beaucoup plus d'écoute. Voilà, la communication, elle doit vraiment être solide. S'assurer d'un partage d'activité, de plaisir, avoir du plaisir ensemble. Donc ça, c'est important, et sur tout le long, quel qu'il soit, même si l'arrivée d'un enfant, et là, c'est pas une raison pour arrêter les choses. Donc il y a cette conscience de la solidité du couple. Il y a le principe de préparer l'arrivée d'un enfant. Et donc, se dire, voilà, arriver un enfant, c'est pas seulement préparer sa chambre, son lit et ses petits jouets, mais c'est aussi aménager une organisation qui va permettre au couple de se retrouver à différents moments. Vous voyez? Alors, que ce soit par l'aide de la famille ou de babysitter ou de pouvoir se relayer et de déléguer, d'apprendre à déléguer aussi en termes de rôle, de laisser l'enfant au père, de faire des choses qui vont permettre de préparer cette arrivée au mieux, et pas que la mère se retrouve complètement isolée avec l'enfant et que le père, il se retrouve rejeté, il se sente rejeté, et que du coup on se retrouve face à un éloignement naturel.
Oui.
Et le dernier point, c'est pouvoir se suivre dans la durée, c'est-à-dire veiller à un équilibre entre le couple entre le couple conjugal et parental. Et ça, c'est quelque chose qui est en permanence, c'est toutes les semaines. Est-ce qu'on a fait quelque chose pour notre couple? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a porté? On a été en vacances? On a été en week-end? On est sorti? On a discuté? Est-ce qu'on a fait autre chose que de la logistique et parler autour de l'enfant et de ce que j'ai travaillé, de ce que j'ai pas travaillé?
Il faut respirer, quoi. Il faut se donner de l'air. Ouais.
Absolument. Il y a ce maintien d'équilibre, la communication qui doit toujours s'évoluer, parce que nous ne croyons pas que nous sommes des experts en communication. D'accord? Parce qu'une vraie communication, c'est être capable d'aller au-delà des mots et arriver à une complicité au-delà des mots. Mais pour arriver à ce niveau-là, faut pouvoir comprendre l'autre, faut pouvoir être dans une connexion qui fait que du coup on est arrivé à un sens commun. Mmh. Et ça, ce n'est pas du tout voilà, et dit dans tous les couples. Et donc dernier élément, et ça on va en parler aussi, c'est par rapport à une façon de gérer les moments de plaisir et des différents projets communs, pas seulement des voyages, mais aussi de se retrouver, de faire l'amour, de passer un moment couple, et parfois d'être même amené à comment
des moments à deux, c'est qui peuvent être très simples,
absolument. Mais maintenant, l'histoire, c'est qu'il y a une vraie problématique. C'est que quand l'enfant arrive, on n'a pas envie de le confier à qui que ce soit. Donc, du coup, on a du mal à laisser l'enfant. Et quand l'enfant est là, du coup, on est perturbé parce qu'il peut se réveiller en plein milieu. Donc, c'est une vraie problématique. Et ça, c'est des choses vraiment à s'organiser, à mettre en place pour finalement faire en sorte d'être serein et ne pas faire ce que finalement beaucoup de couples se retrouvent à être, même sur les anciennes générations. C'est-à-dire que les générations qu'on appelait les générations Y, entre 70 et 80, qui ont été les premières générations dans lesquelles le divorce s'envisage plus facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, les couples allaient mieux. Les couples restaient ensemble, mais ils n'étaient pas pour autant unis. C'est-à-dire qu'ils devenaient un couple parental familial, mais c'est cool, on normalisait ce phénomène. Aujourd'hui, les gens n'acceptent plus d'être seulement un couple parental. Enfin, il y en a qui s'en accordent, parce qu'il y en a qui se disent on va être un couple parental, mais du coup, on va rester ensemble pour des raisons financières. Parce qu'il y a ça aussi.
Ça, c'est un commun accord et c'est un cas à part.
Oui, absolument. Mais voilà, le baby clash, c'est un phénomène qui a été identifié récemment, mais qui n'existe pas depuis aujourd'hui ou depuis 5 ou 10 ans. C'est bien, ça fait bien longtemps que ça existe.
Oui, c'est juste qu'il est clairement identifié maintenant, et puis on le dit, c'est le métier le plus difficile. Mais effectivement, après, maintenir le couple, c'est encore une autre paire de manches. Et merci d'ailleurs de nous avoir donné quelques pistes. Pour celles et ceux qui nous regardent, justement, on vous invite à nous partager vos expériences, que vous soyez parents d'un, deux, peut-être trois enfants ou plus, à savoir comment s'est passée l'arrivée de vos enfants, si vous avez vécu un baby clash ou pas, quelles sont peut-être vos petites astuces pour pimenter votre vie de couple. N'hésitez pas à nous laisser tout cela en commentaire ou bien vos questions sur cette thématique et nous ne manquerons pas d'y revenir. Et bien sûr, donc, si vous vivez mal l'arrivée de votre enfant, que votre couple en souffre, que personne ne parvient à trouver sa place au sein de cette famille, une thérapie de couple après bébé peut s'avérer très utile. Alors, n'hésitez surtout pas à contacter un psychologue. D'ailleurs, il peut y avoir des questions, que ce soit avant même l'arrivée de l'enfant, parfois quand il est là, et puis même peut-être pour après le baby clash. Aris Moni, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et à quel moment est-il bon de consulter un spécialiste et d'ailleurs comment vous consulter?
Alors, à quel moment ça peut être à tout moment en fait, et on ne parle pas forcément de thérapie, on peut avoir des consultations qui peuvent être uniques de questionnement ou des consultations qu'on peut considérer de bilan relationnel. Et l'idée, c'est de se dire que dès qu'on sent qu'il y a une certaine fragilité ou qu'on n'est pas sûr de bien appréhender sa relation, on peut faire une consultation, un bilan pour avoir des conseils et savoir comment se préparer au mieux. Moi, j'ai eu des couples qui m'ont contacté justement à l'arrivée d'un enfant, avant l'arrivée d'un enfant, c'est-à-dire dans la grossesse, et se dire voilà, on est un couple aujourd'hui qui allons avoir un enfant et bon, on a quelques conflits sur le plan du couple, on voudrait savoir quel conseil est-ce qu'on peut avoir pour se préparer au mieux, est-ce qu'on est paré à être parent. Donc après voilà, on établit un diagnostic qui permet d'identifier certaines difficultés qui peuvent être ou individuelles ou propres au couple, et puis après voilà, on peut traiter. Dans certains cas, seulement un bilan peut suffire. Donc pour me consulter personnellement, donc vous avez mes coordonnées que je communiquerai, et qui est possible de me consulter donc par visioconsultation, voilà, sous différentes plateformes. Après, bon, il y a
mettrai plein d'informations dans les descriptifs de la vidéo. Voilà.
Oui, absolument. Mais voilà, il peut y avoir des consultations simples pour faire un état de la relation et avoir quelques conseils. Ou après, bon, quand on sent que le mal il est déjà fait, à ce moment-là, envisager effectivement une thérapie, mais ne pas attendre trop tard pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des états qui peuvent être difficilement réversibles où on intervient plus pour faciliter la séparation, malheureusement, et c'est ce que je suis parfois malheureusement amené à faire. Mais voilà, l'idée, c'est que on puisse, si on a un petit doute, si on a des petites questions, enfin bon, voilà, on peut faire des petits échanges, on peut se renseigner. Mais si on sent que personnellement, voilà, on n'a pas toutes les réponses, on n'est pas serein. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de s'engager dans des longues démarches thérapeutiques. Vous voyez, on fait une séance simple, on a quelques infos, quelques éléments, et puis ça peut suffire.
Merci beaucoup, Ariel Simoni. Et puis, n'hésitez pas à nous poser vos questions et on reviendra dans une prochaine vidéo pour y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à liker, à partager et puis, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Ariel Simoni, un grand merci.
Merci à vous. Merci à vous pour ce sujet important, préoccupant.
Préoccupant, mais vous l'avez dit très justement, on peut apporter des solutions. C'est tout ce qu'on retiendra.
Merci beaucoup. Plus les solutions que les problèmes.
Oui. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.
À bientôt.